Bon, vous vous souvenez, dimanche dernier, nous avons parlé de l'importance de parler aux langues. Et puis un jour, je vais vous expliquer, je vais vous parler aussi sur la prophétie, parce que tout est souvent mélangé. On explique les choses d'une façon ou d'une autre. Mais je vais vous, on va voir ensemble plus tard aussi l'importance de la prophétie. Hein, d'accord? Mais bon, c'est les vacances, on est moins nombreux, donc je me suis dit, je vais faire ça après les vacances. Et ce matin, je vais parler voilà, j'ai intitulé mon partage « Équipé pour servir Dieu efficacement ». D'accord? Équipé, équipement. Pour servir, nous sommes tous sauvés pour servir Dieu. Amen. Avant tout, je suis sauvé pour servir Dieu. C'est pas parce que je vais prêcher que je sers Dieu, c'est pas parce que je vais jouer que je sers Dieu. Mais servir Dieu, c'est le matin, je me réveille et je lève les yeux vers le ciel, vers Dieu pour lui dire merci pour la nuit. C'est le service, c'est lui rendre la louange et la reconnaissance. Seigneur, tu vois, il y a la journée devant moi. Bénis-moi, accorde-moi ta protection. Servir Dieu. Et puis ensuite, après, voilà, oui, quand on est chrétien, on est aussi appelé à servir Dieu. Servir Dieu. Mais pour moi, servir Dieu ce matin, c'était avant tout, je me réveille, je prie. Avant tout, je me réveille, je loue Dieu. Nous avons chanté, j'offre mon cœur, mon corps, ma louange à Dieu dès le matin. Et puis ensuite, voilà, on fait autre chose. On continue, il y a le culte, servir Dieu, servir l'Église, servir le monde. C'est un triple service. Et ça, c'est important. Donc, équipé pour servir Dieu efficacement. On ne veut pas juste faire quelque chose comme ça parce qu'on a envie. Mais nous voulons être efficaces. Lorsque vous êtes embauché dans une entreprise, ah ben le patron, il demande une chose, c'est que vous soyez quoi? Efficace. C'est le rendement. Il faut faire le travail. Alors, on fait tout pour que vous soyez efficace. C'est ça, non? On ne va pas vous dire, bah, voilà, vous êtes embauché, on vous paye, puis faites ce que vous voulez. Vous avez déjà vu ça? Non, on vous demande un travail. Et quelquefois, il y a des pressions. Pourquoi? Parce que le patron, lui, il doit faire un travail, il doit gagner de l'argent, il doit vous payer. Hein, ça, hein, il y en a qui profitent, d'autres non, ce n'est pas notre affaire. Mais lui, il doit payer les charges, etc., etc. Donc, quand on est embauché dans une entreprise, on nous demande d'être efficace. Alors, vous savez tous, mon expérience il n'y a pas longtemps, j'ai appris beaucoup de choses quand j'étais hospitalisé et j'ai analysé chaque événement, chaque chose, chaque événement, je voyais Dieu, je voulais voir quelque chose. Pourquoi ça s'est passé comme ça, mais pas autrement? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi il y avait ces personnes-là? Et après ma première opération, 5 jours après ma première opération, j'étais déjà content, j'étais un peu mieux. Et je me suis dit, bon, ben, ça va, j'avance, j'avance. J'étais un peu mieux, j'ai commencé à bouger dans mon lit. On m'a déjà enlevé tous les tuyaux. Et puis voilà, c'était le soir. Et puis la nuit, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Je passe les détails. J'étais vraiment pas bien et j'ai sonné parce que je me suis dit, c'est le moment de sonner. Et pour moi, pour dire que je suis pas bien, vous pouvez demander à Christiane. Hein, il faut vraiment que je sois presque plié pour dire, ça va pas. Hein, j'ai toujours résisté, je suis un homme, il faut avancer, il faut pas se laisser abattre, maladie, les douleurs, voilà, peu importe, ça va passer, plus la foi en Dieu, mais il y a aussi la sagesse. Hein. Et puis là, je sonne. Ouais, la sagesse vient de Dieu, non? Donc, je sonne, et puis tout de suite, mais quelques secondes, Plus tard, il y avait une dame qui arrive là. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je ne suis pas bien, j'ai expliqué ce que je vivais. Et je ne sais pas comment on l'a fait, je ne sais même pas. Un jour, je vais poser la question parce qu'on aura des réunions, etc. Elle est arrivée, elle a compris que ça ne va pas. Et puis tout de suite, il y a une équipe qui arrive. Il y a une deuxième équipe qui arrive. Il y a une troisième équipe qui arrive. Je ne sais pas comment elle les a prévenus. Je ne sais même pas. Ils ont un moyen. Voilà, ils appuient quelque part chez des personnes concernées. Et voilà, il y a une équipe qui arrive pour mesurer ma tension. D'autres, les pulsations du cœur. D'autres, encore autre chose. Je pense qu'il y avait quatre équipes, chaque fois deux personnes, voilà, qui venaient. Mais c'était à une telle vitesse que, comme j'étais pas bien, j'étais pas mal, mais j'avais la conscience. Et puis, je les regarde. Il y a des gens qui arrivent. Voilà, ça va tellement vite avec ces appareillages. Ils partent, il y a déjà les autres, une équipe qui attend. Et puis, ils arrivent là. Voilà, ils font tout ce qu'ils ont fait avec moi. Et puis, troisième équipe et quatrième équipe. Et puis, je les regarde. Il y avait la chirurgienne. C'était à 6 heures du matin. La chirurgienne était là. Normalement, ils dorment à 6 heures. Je ne sais pas comment ils ont fait. Elle était là. Et puis, pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Ils regardent tous Madame chirurgienne, une petite dame gentille. Elle dit à tout le monde, elle regarde à tout le monde, elle regarde à tout le monde, vraiment calmement comme ça. Et elle dit, voilà, on descend, on bloque opératoire. Et moi j'ai dit, Madame, ça veut dire quoi? On va vous réopérer. On va à nouveau ouvrir. Et j'ai dit, Madame, ça veut dire quoi? Donc elle m'a expliqué, j'avais la conscience, et puis j'ai accepté, je me suis plié, puis j'ai dit, on y va, et puis j'ai commencé, par le Saint-Esprit, aux langues. J'ai même dit, Seigneur, purifie mon esprit, purifie mon âme, purifie mon corps. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Si jamais je dois partir, ah ben voilà, que je sois avec toi pour l'éternité. Et pourquoi je vous raconte ça? J'aimerais pas, voilà, vous fatiguer avec mon expérience, etc. C'est le mien. Mais j'ai appris quelque chose. Et je me suis dit, je vois que cette équipe a fait tous les efforts pour sauver un homme. Pour eux, il n'y a pas Dieu. Même si quelques-uns croient, d'autres moins, d'autres pas du tout. Mais quand vous avez affaire avec tous ces spécialistes, pour eux, c'est la science. C'est ça, c'est la science. Hein, y a une infirmière ici. Je ne peux pas trop tricher. Hein. Et c'est la science. Donc, ils ont tout fait. Et puis, du point de vue médical, c'est vrai, c'est la science qui m'a sauvé la vie. On est bien d'accord? C'est la science. Mais nous savons qu'au-dessus de la science, il y a Dieu. On ne peut pas rejeter la science parce que regardez ce qu'ils ont fait avec moi. Et qu'est-ce que je suis content, moi je bénis la science. Mais au-dessus de Dieu, au-dessus de la science, il y a un Dieu tout-puissant. Et c'est lui qui a le dernier mot. Attention, c'est lui qui a le dernier mot. Alors voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais tellement attentionné par tout ce qui s'est passé. Il y a d'autres événements, je vais vous raconter. On a le temps, hein, l'éternité est devant nous. Hein. Mais chaque fois, je vous raconte quelque chose. Que de la même façon, nous, les chrétiens, nous sommes des équipes pour porter la vie à ceux qui sont morts, spirituellement, je veux dire. Ils vivent, ils ont les oreilles, ils ont les yeux, vous parlez avec eux, mais spirituellement, sont condamnés à la mort éternelle, le tourment éternel, dans la présence de Satan, mais pas dans la présence de Dieu. C'est tellement clair. Et voilà. Il y a des voisins, il y a la famille, il y a mon mari, il y a ma femme, il y a mes enfants peut-être. Peut-être il y a quelqu'un de ta famille. voilà qui sont dans une situation critique. Ils sont condamnés à la mort éternelle. D'accord ? Alors voilà, nous, en tant que chrétiens, en tant que l'Église, il faut que nous soyons prêts à porter la vie autour de nous. J'ai appris ça. Le fait que je prêche ce matin devant vous, c'est important. Mais je pense que plus important, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité aujourd'hui, c'est penser à quelqu'un. C'est aller témoigner à quelqu'un. C'est partager la parole de Dieu à quelqu'un. C'est dire à quelqu'un, il y a la vie, ne reste pas dans cette condamnation. Amen. C'est tellement important. L'essentiel de la vie, c'est pas jouer. Qu'est-ce que j'aimerais jouer? J'avais pas la possibilité d'apprendre. Moi, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, si je devais refaire ma vie, j'aurais été musicien, j'aurais été quelqu'un qui aime enflammer les foules par la musique, j'aurais apporté la vie, le dynamisme. Voilà, ça, c'était un peu, mais regardez, pas du tout. On a investi dans nos enfants, mais moi, je ne sais même pas chanter. C'est toujours Christiane qui m'a aidé au début, chanter, puis moi, je ne sais même pas chanter. Donc, vous voyez, l'essentiel, le plus important, c'est le salut. C'est porter la vie là où il y a la mort. C'est de se réveiller le matin pour dire, Seigneur, est-ce que je suis aux règles avec toi? Allô? Est-ce que j'aime tout le monde? Est-ce que j'aime même mes ennemis? Ce n'est pas toujours facile à aimer les ennemis. Ça vous arrive quelquefois où vous avez un combat parce qu'on vous a tellement fait de mal? Allô? Et puis la parole de Dieu nous dit quoi? Ah, il faut les aimer. C'est facile d'aimer nos amis, hein? Moi, quand je vois Antonia souriante, chaque fois elle vient me voir, elle me dit bonjour, ou Marie, ou voilà, tous ces jeunes qui viennent me voir, c'est tellement respectueux. Ah ben, c'est facile d'aimer ces jeunes comme ça, c'est tellement beau. Hein? Mais quand vous avez des ennemis, quand vous avez des gens qui vous ont fait beaucoup de mal, c'est plus difficile. Hein? Alors, on doit les aimer. C'est ça le plus important. Et reste après, voilà. Ce sont des choses aussi importantes. Voilà, donc. Ce que j'ai remarqué aussi, j'ai appris après, on m'a dit, vous m'avez dit, Christiane m'a dit, que s'il y avait une prière, vous avez fait vous êtes organisé, on s'est organisé dans d'autres églises, d'autres pays, il y avait la prière pour moi, pour ma santé, et je me suis dit, j'ai appris quelque chose aussi, c'est formidable d'avoir des amis, j'étais porté, je ne savais pas ce qui se passait derrière. Mais je sentais qu'il y avait une puissance quand l'ennemi m'attaquait. Comme l'ennemi attaquait mes pensées, quand il venait m'insulter dans mes pensées, quand il venait semer les doutes, les jugements, quand il venait me dire « c'est fini pour toi », je n'avais pas du tout difficulté de repousser tout ça. Parce que je sentais quelque chose autour de moi, quelque chose. Et puis après, j'ai appris, voilà, on a prié pour toi, voilà, j'ai reçu des messages dans une église, ils ont fait une chaîne de prière. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout à coup, Antoine va bien et on arrête de prier. Ça peut être Antoine, ça peut être Rita, ça peut être Georges, ça peut être... Marie, vous comprenez, il ne s'agit pas juste de ma personne. C'est mon expérience. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer demain avec toi. Et je ne sais pas ce qui va se passer avec moi demain encore. On est bien d'accord? On ne sait pas ce qui va m'arriver lorsque je vais sortir de cette salle. Alors pourquoi on n'est pas visionnaire, pas assez visionnaire, pas assez prophétique? Ah ben on va dire, lui, il va vraiment bien. Ce couple marche très bien, ils sont en forme. Et souvent, on ne prie pas parce qu'ils vont bien. Et quand il y a un problème, on se mobilise et on prie. Alors, pourquoi pas proclamer la protection? Pourquoi pas ne prier pour celui qui va bien? Pourquoi pas ne pas proclamer la protection sur tous ceux qui sautent sous l'estrade, qui sont dans la joie, qui jouent? On a l'impression qu'ils n'ont pas de problème. D'accord? Pourquoi pas ne pas prier pour eux? Pourquoi pas ne prier pour moi quand tout va bien? Vous avez prié pour moi, et combien je suis reconnaissant. Mais les combats sont là. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de combat? Nous avons tous des combats. Donc vous voyez, il y a une puissance dans la prière. Et aujourd'hui, je ne devais même pas vous parler de ça, mais comme ça, on a commencé par ce chant, notre Père, et puis Alice, elle a soutenu, c'est que Dieu voulait que... Réfléchissez, digérez un peu, vous comprenez, on oublie facilement les choses. Dieu voulait nous dire quelque chose, alors que bien la prière est quelque chose d'important. Quand j'ai décidé, quand j'étais gamin, ado, j'ai décidé pour que la Bible et Dieu ne fassent pas partie de ma vie. J'ai décidé, c'était ma décision. J'ai vu mes parents prier, mon père a été en prison pour l'évangile quand j'étais gamin. J'ai vu des choses qui... Il y avait peut-être une saturation et j'ai dit, surtout pas Dieu, surtout pas la Bible. Je suis parti faire les études, j'habitais à l'internat, puis mon père m'a donné le Nouveau Testament. Il dit, tu vas lire la Bible, tu es élevé dans une maison chrétienne. J'ai pris le Nouveau Testament pour ne pas frustrer mon père. Je suis entré dans ma pièce, dans ma chambre. Et la première chose, c'était la priorité pour moi, c'est que j'ai pris le Nouveau Testament et j'ai déchiré le Nouveau Testament, j'ai déchiré, parce que je me suis dit, si quelqu'un va jeter un coup d'œil dans la poubelle et puis ils vont voir le Nouveau Testament... je vais être gêné, vous comprenez, c'était la haine. J'étais gêné de dire que mes parents étaient chrétiens. J'ai déchiré en morceaux le Nouveau Testament. Et puis regardez, des années après, je suis toujours là. Donc vous voyez la force diabolique qui veut nous détruire, mais vous savez pourquoi? Parce que ma mère... Elle priait la nuit pour nous. On était 8 enfants. Elle a prié. On habitait dans une petite maison. On entendait, on savait ce qui se passe. On dormait à 4 dans une chambre. J'ai dormi avec mon frère à 2 dans le même lit. Il était plus petit. Il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage. On se réchauffait, on s'est bousculé un peu. Voilà. Et j'entendais ma mère. La nuit s'est réveillée. Elle pleurait devant Dieu. Elle priait pour nous. Et quand l'ennemi est venu et il voulait me détruire, arracher, la puissance de la prière de ma mère, je pense que c'était ça. Et mes parents ont changé les plans de diabolique. Et j'ai pu accepter Jésus dans ma jeunesse. Et combien je suis heureux aujourd'hui que j'ai pu passer ma jeunesse dans la foi avec des chrétiens. J'ai rien perdu, j'ai tout, beaucoup à gagner. Beaucoup gagné. Alors Dieu veut se servir de toi, et bien sûr de toi et de moi, pour arracher quelques-uns de la gueule de Satan. Amen. De la mort éternelle, je vous ai dit. Et on va prendre juste un verset... Luc, l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, s'il vous plaît. Là, vous allez voir que ce sont les paroles de Jésus. Voilà, c'est déjà fait. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. J'étais perdu, tu étais perdu, j'étais perdu. Vous étiez perdu, j'étais perdu. Marie, tu étais perdu, même si tu es là, jeune, etc., la vie est devant toi. Mais spirituellement, tu étais perdu. Et même au Congo, les gens sont aussi perdus. Et en Amérique, les gens sont aussi perdus. C'est bien ça. Et même au Canada, les gens sont aussi perdus sans Dieu. Amen, partout. Partout, partout. Car le Fils de l'homme est venu. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a été crucifié. Il a donné sa vie sous la croix de Golgotha. Il a souffert. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Chaque fois quand je lis cet extrait de la parole de Dieu où Jésus est crucifié sous la croix, puis on le frappe, on blasphème, on lui donne des vinaigres quand il avait soif. Ah, ça fait quelque chose. Jésus a donné sa vie pour toi. Rita, tu crois? Tu sais que quelqu'un a souffert pour toi? C'était dur, hein? C'était dur, hein? Patrick, t'es conscient que Jésus a souffert pour toi? Voilà, réveillons un peu nos consciences. Sonia, tu crois que Jésus a... Véronique, tu crois? Il a souffert. Il a souffert pour moi. Anaël, tu crois? Il a souffert pour toi. Il a souffert pour nous tous. Son sang a coulé grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Oh, nous sommes sauvés. Libérés, on chantait pendant la louange. Libérés. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Et il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Alors valorisez cette grâce. Quand vous êtes aux villes, bah, vous voyez les foules, ça m'arrive souvent. Je vois la foule, je vois les gens à Auchan dans de grandes surfaces. Et je dis, Seigneur, tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui est sauvé dans cette foule, je ne sais pas. Mais je suis sauvé, grâce à toi. Et tu vois, toutes ces foules-là, ça court dans tous les sens, les gens vivent sans espoir. Mais moi, je valorise la grâce de Dieu. J'ai dit, tu vois, oh, je suis sauvé, tu habites en moi, je suis précieux. Amen. Est-ce que vous faites la même chose? Quand je passe dans une ville et j'ai dit, oh là là, il y a des démons partout, tout ça, des choses terribles. Et toi, tu habites en moi. Je suis une habitation de Dieu. Joël, Julia, tu as déjà, excuse-moi, réalisé ce que Dieu a fait pour toi? Oh! J'accepte Jésus. Je suis rassuré pour la vie. On est tellement heureux. On a tellement à gagner. On est libéré de la condamnation. Et nous avons la vie. Dieu veut se servir de toi et de moi pour arracher quelques-uns de la gueule de Satan, de la mort éternelle. Jésus est venu sauver, comme vous avez entendu, ce qui était perdu. Et Jésus est venu aussi travailler avec nous pour que nous soyons efficaces. Marc 16, 19, 20. À l'évangile de Marc, chapitre 16, le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, donc les disciples, il était avec les disciples, d'accord? Et il parlait avec eux, et il partageait les choses. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, d'accord? C'est bon? Il était enlevé. Sa mission s'est terminée quand il avait 33 ans et 6 mois, plus ou moins. fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Donc les disciples sont partis prêcher l'évangile partout. Alors il y a... Et ça s'est passé en Israël. Jésus est venu là. Ce matin, j'ai parlé avec Josine. Elle m'a dit, je reviens d'Israël. Oh, je suis jaloux. Elle était dans les Jourdains, hein, Jérusalem. On ne peut pas contourner Israël, Jérusalem, quand vous lisez la Bible. Hein, on ne peut pas. Il y a toute une histoire derrière nous, mais il y a aussi le futur, il y a aussi des choses extraordinaires aussi devant nous. Ils ne se sont pas encore accomplis. Voilà, donc, c'était là, travail, et puis voilà, donc, aller prêcher partout. Les seigneurs, juste avant, furent enlevés au ciel. Et juste plus tard, regardez, les seigneurs travaillaient avec eux. Comment ? Ben, il est parti ! Allô ? Mon frère, il m'a dit, dimanche prochain, nous, on est en vacances avec Pascaline, c'est ça ? Ah ben, je sais qu'on ne peut rien faire ensemble ici dimanche prochain, parce qu'ils ne sont pas là. Allô ? Ceux qui ne sont pas là, ben, ils sont en vacances. Ou pour une autre raison, ils ne sont pas là. Et ils sont partis. Et ils ne sont pas là. Ben, dimanche prochain, moi, je serai à Waterloo. Je peux rien faire avec vous pendant le culte parce que je serai là-bas. Alors là, vous voyez, Jésus est parti et puis là, il est quand même là. C'est impressionnant, non ? Allô ? Julia ? C'est fort, hein ? Il est quand même là. Pourquoi ? Les seigneurs travaillaient avec eux. Alors, le Seigneur travaillait avec eux. Il était là. Il était présent. Il les aidait. Et au plus, l'homme est limité. Alors voilà, il est confirmé la parole par... Il prêchait la bonne nouvelle, il prêchait la parole de Dieu, hein, les disciples prêchaient la parole de Dieu. Et comme nous, les hommes, nous n'avons pas toute la puissance, nous avons reçu la puissance selon la mesure de Dieu. D'accord ? Alors voici, donc, nous pouvons prêcher. Les disciples pouvaient prêcher, raconter, annoncer la bonne nouvelle, mais c'est Jésus qui confirmait la parole de Dieu par les miracles. C'est-à-dire, lorsque les disciples disaient à quelqu'un, tu sais, Dieu Tout-Puissant, très bien. Vous savez, Dieu peut vous guérir. C'est très bien. Alors il s'adressait à Dieu et Dieu guérissait. Donc la parole qu'il prêchait était confirmée par les miracles. Donc les miracles qui l'accompagnaient. Alors voici, donc Dieu se servait de nous pour toutes ces belles choses. Il travaillait avec eux. Mais aujourd'hui, Jésus travaille aussi avec nous. Il n'est plus là physiquement, mais partout, j'ai visité plusieurs continents, chaque peuple, chaque sensibilité spirituelle, ils ont une certaine approche. Hein, vous allez... Dans certaines églises, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Vous allez dans d'autres églises, Vous attendez la prière tous les 5 minutes, parce que voilà, c'est beaucoup de méditation au lieu de, comme nous, nous exprimons, ah ben d'autres méditent. J'ai parlé une fois avec un homme intègre, formidable, croyant, et lui m'a dit, moi je vous respecte, parce que vous vivez quelque chose d'exceptionnel. Mais moi, je n'ai pas besoin plus que 3 quarts d'heure de culte. 3 quarts d'heure. Hein. Un culte de 3 quarts d'heure, pour moi, ça suffit. Alors, j'arrive, on chante un chant avec des cantiques. J'entends, j'écoute la prédication, un partage de la parole de Dieu, une histoire de l'évangile pendant 1 quart d'heure. Et puis, on fait une petite prière par-ci, par-là. Et il dit, je suis content, je suis heureux, parce que j'ai assisté à un culte et moi, je n'ai pas besoin de plus pour être chrétien. Parce que d'être chrétien, il m'a dit, ben c'est tous les jours, c'est 24 sur 24. Est-ce qu'il avait raison? Voilà. C'est vrai, mais ça c'était... Et moi, je le respectais. Je lui ai dit, écoute, si pour toi tout va bien, ben, qui suis-je moi pour te juger? Parce que lui, il m'a dit, je vous respecte, je vous aime beaucoup parce que ce que vous faites, c'est formidable, mais ce n'est pas ma façon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, je reviens donc à cette parole, qu'aujourd'hui, Jésus est là et il travaille avec nous. Voilà un témoignage. Ce n'était pas dimanche ici, dimanche avant, nous étions en culte à Waterloo. C'était le culte en commun. Il y avait un monsieur qui s'appelait Roger, qui était là. Vous vous souvenez, Roger? Monsieur Roger était là. Et M. Roger nous a contacté juste avant pour savoir s'il pouvait venir au culte, etc., etc. Donc il cherche voilà, une église, il est interpellé par Dieu, il a entendu parler des évangéliques, etc. Et je lui ai répondu, j'ai dit, bon, ben, j'essaierai à Waterloo, je serai là. Vous venez, on se dira bonjour, on prend le contact et on ne sait pas, voilà, je ne savais pas ce qu'il voulait. Et j'arrive là, M. Roger était déjà ici. Bonjour, M. Roger, vous allez bien? Voilà, on a discuté un peu, et puis à la fin du culte, je vais voir M. Roger. Alors, ça va, M. Roger? Ça a été? Et M. Roger m'a dit, ah, je suis vraiment déçu. Et il était honnête. Je suis vraiment déçu. Ah bon? Oh, il dit, je me suis dit, je vais aller chez les évangiles, dans un culte. J'ai déjà assisté quelque part en Normandie, dans un culte évangélique. C'était comme je voulais. Et ici, il dit, il y a tellement de bruit, ça prie, ça chante, ça saute, ça joue. Il dit, c'est trop bruyant. Ah ben, monsieur Roger, désolé, mais bon, on ne va pas changer juste pour vous. Hein. Bon, on peut se rencontrer chez moi à la maison, boire le café, dans les calmes, on va prier calmement, pas de problème. Mais ici, moi, je ne peux pas arrêter tous ces gens-là. Ils sont tellement heureux, je ne peux pas arrêter. Et encore, je ne peux même pas faire comme eux parce que j'avais quelques problèmes de santé, donc je dois me maîtriser. Bon, il n'y a pas d'autres églises ici dans la région. Oui, il y en a beaucoup. Alors, vous pouvez peut-être aller là. Je connais les églises, je connais les pasteurs. Je sais où quelques églises où c'est calme, voilà, et tout ça. Donc, j'ai dit, vous allez dans cette église-là, sinon vous allez dans cette église-là, c'est un peu plus calme, mais c'est toujours le même Dieu. Hein. Toujours le salut. Donc, vous allez là, ils sont gentils aussi. Bon, là, c'est bien aussi. C'est un peu, l'accueil est peut-être un peu juste. Donc, essayez de voir. Voilà. Et vous allez trouver ce que vous voulez. Monsieur Roger, on ne l'a pas vu dimanche passé. Il n'est pas venu. Il m'a dit, trop bruyant. Et dans la semaine, je reçois un email. Vous vous souvenez, j'étais monsieur qui est venu et puis je vous ai dit que c'était trop bruyant. Alors, moi, maintenant, je vais vraiment vous voir. Est-ce que vous pouvez me donner rendez-vous? Parce que M. Roger était travaillé par les bruits. Par les bruits. C'était trop bruyant, ça les poursuit tellement. Bon, 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 Jésus lui dit, je t'aime. Roger, tu sais, c'est des gens bien. Oui, tu sais, l'évangile, c'est une puissance. Donc, quelquefois, ça nous perturbe un peu. Hein, c'est ça. Hein. Tu vois, il y a des gens qui sont souriants, d'autres lèvent la main parce qu'ils sont joyeux, c'est tout. Alors, Roger, viens voir. Alors ça, c'est vraiment Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment Dieu. Nous avons fait... C'est vrai, je ne vous cache pas que moi, je fais tellement attention aux personnes qui viennent dans nos églises pour la première fois, parce que pour moi, quelqu'un qui rentre pour la première fois est une personne plus importante. Si on est 50, la personne plus importante, c'est celle-là pour moi. Si on est 100, c'est la personne qui est venue pour la première fois est plus importante. Si on est à 1000, elle est plus importante. Quand Julia est venue pour la première fois, bah pour moi, la personne plus importante, c'était Julia. Je l'ai regardé comme ça, il n'a pas vu que je l'ai regardé. Mais j'ai dit, Seigneur, touche-les, bouscule-les. Tu vois, Julia, il y a besoin. Hein. Mais il n'est pas pire que moi. Moi, j'étais aussi pas parfait. Tu m'as sauvé. Si toi, tu m'as sauvé, tu peux sauver chez Julia. Ça va, vous avez compris? Plus important. C'est la plus importante. Alors, je me suis dit, c'est possible que peut-être on a été trop brouillons. C'est toujours l'ennemi qui profite. Hein? Il essaye de me perturber. Mais si j'accepte Roger dans sa façon de vivre l'évangile, ah ben les autres, ils vont partir. On est bien d'accord? Alors, voilà ce que Dieu a fait. Il a confirmé sa parole et Roger, Monsieur Roger, viendra me voir. Monsieur Roger sera avec nous dimanche prochain. Il m'a dit dimanche prochain, pas aujourd'hui. Dimanche prochain, en plus du service de baptême. Et puis voilà, on va continuer le toucher par la puissance du bruit de l'évangile. Et vous savez comment, pourquoi beaucoup de jeunes, quand ils rentrent ici, s'accrochent parce qu'ils me disent, il y a des jeunes, il y a le dynamisme, il y a la joie. Et si il y a des jeunes qui rentrent dans une église, dans un bâtiment, dans un culte ou une messe évangélique, où il y a juste troisième âge, les gens qui sont très calmes, alors ils vont pas rester. Hein. On est bien d'accord. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Alors voilà, donc, Dieu veut se servir de nous et c'est à nous à annoncer la parole de Dieu. Voilà, savoir que Jésus travaille avec nous. Et moi, j'ai vu l'action de Dieu, la collaboration dans ce travail avec Roger. Je me souviens, une infirmière à l'hôpital, je vous parle encore de l'hôpital, vous allez devoir souffrir avec moi, avec ça. J'essaie d'oublier. C'était la nuit aussi, j'ai appelé une fois à un moment une infirmière, elle est venue tout de suite, là, elle était là. Voilà, elle a fait ce qu'il fallait. Et chaque fois, j'étais touché parce qu'ils sont tellement gentils. Et c'était c'était quand même une cité hospitalière. Il y a du monde, il y a des foules. C'est l'usine, ça. Vous comprenez? Mais quand ils venaient vers nous, tout le personnel, ils sont tellement gentils. Je ne sais pas si chez toi, là, t'es gentil aussi, toi, non? Et voilà. Elle me pose la question, ah ben vous habitez ici, moi je viens de Strasbourg, j'ai fait les études, et puis c'était une jeune, 23 ans, 24 ans peut-être, et je cherche un appartement, j'aimerais trouver un appartement parce que j'habite un petit studio et c'est tellement juste, mais c'est vraiment cher, c'est vraiment cher. Et moi j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas bien, ma tête elle est un peu dans les nuages et tout ça. Mais en même temps, collabore avec moi. Je vais lui dire deux, trois mots. Hein. Tu fais le reste. La collaboration, vous comprenez? Tu es là partout, mais en même temps, tu es dans cette chambre. Et j'ai dit à cette jeune fille, vous savez, je suis pasteur. De toute façon, ils savent parce que c'est noté dans les papiers. Et j'aime dire ça quand je suis avec ces gens-là. Reste après, ce n'est pas ça qui est important. Mais pour qu'elle sache, soit au courant que ben voilà, je suis chrétien. Je suis chrétien, je crois. Et dans notre communauté, nous avons un groupe de jeunes. Alors, vous faites mon nom sur Internet, vous allez trouvé mes numéros de téléphone, vous allez tomber sur les sites de l'église et l'adresse, et vous venez, je vais vous mettre en contact avec les jeunes et ils vont vous aider. Peut-être faire une cohabitation comme vous avez fait vous. Hein. Ça fait à 3. 1000 euros divisé par 3, ça fait 350, même pas. C'est moins cher, hein, c'est ça. Hein. J'ai parlé de ça, j'ai connu des jeunes, vous comprenez. Et elle a été touchée, elle m'a écouté. C'est vite, parce qu'il y a d'autres patients qui attendent. Alors elle avançait déjà, elle m'a regardé encore, et elle avançait, et elle m'a encore questionné. Elle avançait, elle était déjà à la porte, elle est revenue. Elle me dit, au revoir, monsieur Révérend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, j'étais content. Parce que je me suis dit, le témoignage est passé. J'attends coup de fil. Ça fait 3 mois. C'est pas encore fait. Mais tout à coup, ça peut arriver. Ça va, c'est bon? Alors, nous sommes équipés des armes puissante. On va juste lire encore un texte. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons, on parle de quoi? Des armes, ça va? Et pourtant on est chrétien, hein? On ne tue pas ici, hein? Et on parle des armes. Les armes, c'est quand vous êtes sensible, quand on voit ce qui se passe dans le monde, et on parle des armes, c'est... Voilà, mais il y a les armes pour combattre la chair, si vous voulez, et il y a aussi les armes pour combattre les puissances des ténèbres. Il y a 2 armes. Donc, nous les chrétiens, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas quoi ? Charnel, question. Les armes, combattants, et Paul disait clairement, nous combattons. Ça veut dire qu'il était engagé dans les combats. D'accord ? Ne sont pas charnels. Les armes avec lesquelles, excusez-moi, nous combattons ne sont pas charnels. Vous avez compris, hein ? D'accord. Mais elles sont quoi ? Puissantes. Elles sont puissantes. On parle de la puissance. On parle des armes puissantes. Quelque chose qui est beaucoup plus puissant qu'une pistolet ou même une arme nucléaire. Voilà. Donc, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu, par la force surnaturelle. D'accord ? Donc, mais elles sont puissantes. Pas la vertu de Dieu, la vertu de Dieu, essayez de chercher chez vous dans les dictionnaires bibliques, vous allez voir, c'est très profond, pour renverser quoi ? Pour renverser des forteresses. C'est symbolique pour que nous puissions comprendre. Vous voyez des forteresses, hein, vous allez dans la montagne, des forteresses, etc. Et il existe aussi des forteresses spirituelles. Donc, pour nous sommes équipés des armes pour renverser des forteresses. Alors, nous renversons quoi ? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Troisièmement, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, mon premier combat, c'est moi. Allô ? Il y a des forteresses au niveau de mon raisonnement. Combien de fois on était engagé, même au niveau de l'Église, dans des actions comme acheter des bâtiments, comme il fallait de l'argent pour le matériel, etc. Et il y avait un moment comme ça où je sentais que Dieu me pousse pour dire, vas-y, c'est le moment, ça va marcher. Vous comprenez? Voilà, Dieu collabore avec moi. J'ai mon intelligence parce que Dieu m'a donné mon intelligence, je vois les besoins. Et ensuite, voilà, il y a le défi par la foi, il faut aller par la foi. Et tout de suite, le raisonnement. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu te commandes et tu n'as pas d'argent? Un exemple. Et qu'est-ce qui vont dire les uns et les autres quand tu vas dire que tu veux acheter un bâtiment? Tu vas te retrouver tout seul. Tu vas devoir payer le crédit tout seul. Ou avec juste quelques-uns. Vous comprenez? Il y a l'ennemi qui nous attaque et il y a des forteresses qui se forment au niveau de mon intellect. Et en fonction de soins, de ça, quelquefois je peux construire une certaine philosophie dans un domaine ou dans un autre. Je peux construire une religion. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux construire un principe qui me bloque totalement de la communion avec Dieu. Et puis on dit souvent les missionnaires, quand ils viennent en France, et ils disent, oh là là, le peuple français est très cartésien. Très carré, hein? Non? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Très cartésien. Très cartésien. Le raisonnement. Voltaire. Raisonnement. Raisonnement. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui était chrétien, bouillant, il m'a dit, ben moi je suis humaniste. Pas besoin de Dieu, je suis humaniste. Le raisonnement, vous voyez? Donc, je dois combattre avec mon raisonnement personnel. Amen. Tout n'est pas parfait, hein, Antonia. On a une action, l'évangélisation, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? C'est le raisonnement, j'ai raison. Il y a tellement de bénédictions de Dieu, j'ai raison. On a parlé du baptême du Saint-Esprit, combien de chrétiens qui raisonnent pendant 5, 10, 15 ans même. Ils raisonnent, ils ont fait une certaine philosophie du Saint-Esprit, et puis... C'est un domaine tellement simple. Reçois tout simplement, puis tu vivras des bénédictions formidables. Ne raisonne plus. Donc, le combat avec les raisonnements. Ensuite, quoi? Deuxièmement, c'était... Donc, nous sommes là pour renverser les forteresses. Raisonnement. Il est question aussi de pensées captives. Hein. Comme pensées captives, on trouve ça où? S'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes pensées captives, captives par la puissance des ténèbres. Nous sommes captives. Et notre combat, déjà, est en nous-mêmes. Et puis ensuite, lorsque nous sommes libres, et nous chantons souvent, « Oh, je suis libéré, je suis sauvé. » C'est formidable, tu chantes. Mais est-ce que réellement tu es libéré? Est-ce que tu es un homme, une femme libre? Est-ce que tu es un couple libre? Amen. Donc vous voyez, tout ça, c'est tellement, tellement important. Nous sommes appelés ensuite à porter la libération, la délivrance, la liberté, parce que, voilà, on voit ça autour de nous, le raisonnement et les pensées qui sont complètement captives. J'ai rencontré cette semaine un couple américain. Ils m'ont téléphoné, comme souvent ça se passe, des missionnaires qui veulent me voir, etc. Et là, j'ai répondu oui. J'ai répondu, j'aime les Américains, je suis obligé parce que... J'aime les Américains. Ils sont venus à Troyes, je les ai rencontrés, c'était quand? Bon, il y a deux jours, jeudi soir, jeudi après-midi. Et voilà, ce sont des missionnaires qui sont envoyés en France. Et puis ils passent par Maroc pour apprendre un peu la mentalité des musulmans. Ils apprennent là-bas la religion et puis la langue. Et puis ensuite, ils veulent venir ici, en France, ces Américains, en France, pour travailler parmi les musulmans et surtout parmi les Maghrébins. Donc ils m'ont posé la question s'il y a des églises, tout ça, voilà. Et puis ensuite, c'était Marc et Marie. Marc me dit, voilà, c'est ce que j'ai un peu expliqué, que moi je suis jamais, j'ai jamais été spécialisé dans ce travail-là, puisque nous avons eu toujours la vision de travailler pour tout le monde. Voilà. Pour tout le monde, je suis pas spécialisé, mais il y a des églises, il y a des groupes qui sont vraiment spécialisés pour pouvoir travailler parmi les musulmans. Et donc, Marc, un jeune de 30 ans, voilà, il me dit, ah oui, il dit, je vois comment c'est en France, c'est tellement fermé, tellement fermé. Et je lui ai dit, quand on est aux États-Unis, on peut facilement parler avec les gens de Dieu, facilement. Bon, moi, même quelquefois, je suis dans la rue, là-bas, je commence et puis je tombe sur quelqu'un qui... Parce que ça fait, Dieu fait partie de la culture. Quand je suis en Afrique, dans la rue, les gens nous accostaient parce qu'on était des blancs pour nous poser des questions. Et très vite, ah, ben voilà, je suis venu ici dans votre pays pour bénir votre pays par ma prière, par tout ça. Oh, je n'étais pas du tout choqué, pas du tout. Ah ben, moi je suis pas croyant, il me dit tout de suite. Hein. Moi je suis pas croyant, mais je respecte les gens qui croient en Dieu. Et nous avons le respect envers Dieu. Est-ce que c'est bien comme ça? Hein? Plus facilement, on peut parler avec des gens. Ça fait partie. Dieu fait partie de la connaissance de... Mais en France, déjà essayer de parler avec quelqu'un de Dieu. Comment? Même avec cet acte chrétien. Oh là là, c'est dur ça. Hein? Ah. C'est difficile de parler même avec quelqu'un. Bon, on ne va pas dire tout le monde. Quelqu'un. Quelqu'un. Parler, c'est difficile. Quand on peut parler avec quelqu'un de Dieu, c'est qu'on a déjà fait un travail. Hein. Bah, tu sais, voilà, on essaye de jouer un peu sous les mots et puis d'être gentil, d'être un peu diplomatique. Voilà, on utilise la diplomatie. Et tout à coup, ah bon, vous pensez que Dieu existe, etc. Ici, majorité des gens rejettent Dieu. D'accord? Regardez les raisonnements. Nous avons affaire avec ça. Si nous ne sommes pas encore libérés de ce raisonnement évangélique, ben voilà, c'est un raisonnement, c'est une philosophie. C'est ça. Hein. Donc déjà, nous, nous préparons, nous acceptons une libération en nous-mêmes et ensuite, après, ben voilà notre travail. C'est avec tous ces gens qui raisonnent et que leurs pensées sont captifs, hein, en captivité. Et ensuite, après, donc, facilement, nous pouvons travailler avec Jésus pour porter donc l'évangile. Alors, vous vous souvenez, dimanche dernier, il y avait ici un couple américain. Ce sont des amis de Nathalie et Amélie parce que les enfants apprennent le français. Donc, ils sont venus ici, voilà. Et voilà, on les a invités, on a dit, est-ce que vous pouvez venir au culte? Et donc, Marc, monsieur américain, nous a toujours dit que ce que vous avez, en quoi vous croyez, l'évangile, tout ça, c'est culturel. Vous avez compris? Donc, c'est culturel, on lui respecte. C'est un Américain avec la culture américaine. C'est culturel. Vous croyez en Dieu. Vous vous retrouvez. C'est formidable. Je vous respecte. C'est bien. C'est culturel. Et chaque fois, c'était culturel. Sa femme, elle est un peu plus, se pose des questions. Et puis, on lui a dit, est-ce que tu peux venir au culte? Et ils étaient là. On était sûr qu'ils ne viendront pas. Sûr. Ils sont en vacances ici. Pourquoi aller au culte? Quelqu'un qui... voilà, Dieu, c'est culturel. Et là, il était interpellé, déjà pas de la louange, tout ça, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis ensuite, nous avons mangé avec eux. Je passe les détails, et puis chaque fois, on voulait amorcer un petit peu l'histoire de Dieu. Vous comprenez, c'est l'objet, les Américains ou pas les Américains, tout le monde a besoin de Dieu, non? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Donc, nous avons essayé d'amorcer la situation à plusieurs reprises à nos amis américains. Et c'était toujours limité, on ne pouvait pas aller plus loin. Ah ben c'est bon, on a parlé du travail, on a parlé de ça, on a parlé de la culture en France, de la gastronomie en France, parce qu'ils aiment beaucoup, etc. Et puis, tout à coup, Christiane, elle amorce aussi. Et puis, plus tard, on amorce un petit peu. Et puis, voilà, on a passé la soirée comme ça. Parce qu'on voulait partager notre joie, la certitude, la vie éternelle avec nos amis américains. Ils ont besoin aussi de Dieu. Amen. Même s'ils ont de belles maisons, ils vont devoir se séparer un jour. Même s'ils ont de belles voitures, de plus large que nous, ils ont besoin de Dieu. Et un jour, ils vont devoir laisser tout ça, non? C'est ça, hein? Alors moi, j'ai dit, à un certain moment, j'ai regardé droit dans le visage de Marc, américain, et j'ai dit, Marc, la prochaine fois, quand tu vas revenir ici en France, on va vous inviter, tu vas venir au culte et tu vas donner ta vie à Jésus. C'était fort, hein? Bon, je sentais qu'il n'était pas prêt, mais Dieu va travailler. Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu Marc? Mais pourquoi pas, oui! Alors maintenant, il faut prier pour qu'il revienne plus vite possible. Et puis dans un culte ici, vous allez voir, Marc va lever la main pour dire, bon, c'est symbolique lever la main, pour dire, je donne ma vie à Jésus. Vous voyez, d'être visionnaire, penser aux autres, mais aussi croire que Dieu va collaborer, travailler avec moi pour gagner cette famille-là à Jésus. Mais beaucoup d'autres. Mais bon, le Seigneur nous conduit d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc Jésus veut travailler en collaboration avec nous. Il nous donne sa force, sa puissance, une arme puissante. Alors, les armes... puissante, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu ne remplace pas autre chose. La parole de Dieu, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est la volonté de Dieu. D'accord? La parole de Dieu nous enseigne. C'est pour ça qu'on fait des enseignements, des groupes actuellement. Si quelqu'un n'a pas encore intégré un groupe d'enseignement basique, voilà, tout est là. On fait d'autres formations, on fait des formations même pour des responsables, des pasteurs sur les plans plus larges que l'église locale. On va mettre la formation maintenant d'être vrai adorateur avec nos amis anglais. Et moi-même, je vais participer parce que je ne sais pas tout. Hein. Je vais participer, je me suis inscrit pour dire... Pourquoi pas me retrouver avec des hommes de Dieu que Dieu se sert, que Dieu utilise. Je vais me retrouver parce que ce qu'ils vont apporter, ce qu'ils vont nous dire, ça me servira pour pouvoir communiquer aux autres. Donc vous voyez, toutes ces choses-là se font autour de la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons quoi? La connaissance, nous nous édifions. Amen, la parole de Dieu nous édifie. Nous édifie. La parole de Dieu nous exhorte, la parole de Dieu nous propulse pour aller plus loin, la parole de Dieu suscite en nous l'espoir, l'espérance, et nous conduit vers la relation personnelle avec Dieu. Donc la parole de Dieu fait partie de cette arme de Dieu. La prière, c'est une arme puissante aussi pour nous les chrétiens. Vous avez vu, je vous ai parlé de la prière, combien... Je me suis senti entouré, combien je me suis senti porté par la prière, priant les uns pour les autres, priant pour ceux qui ont besoin de Dieu aussi. Et puis donc, vous avez entendu dimanche dernier, il y a aussi les choses surnaturelles que nous pouvons vivre naturellement. Il y a le Saint-Esprit, nous pouvons prier en langue, et puis nous pouvons prier par intelligence, nous pouvons chanter en langue, nous pouvons chanter par intelligence. C'est pour toi et moi, c'est pour nous, hein, même. Et nous nous édifions, nous nous fortifions, nous parlons avec Dieu, nous parlons par le Saint-Esprit des mystères de Dieu. Quand on parle de mystères de Dieu, Satan ne comprend même pas. C'est que Dieu qui comprend. Donc c'est formidable. Voilà, nous pouvons prier pour la protection. Je vous ai déjà parlé de ça et des autres. Voilà, ne soyez pas égoïstes. Donc la prière fait partie de cette arme, le Saint-Esprit qui est en nous, qui est en nous. Ce sont des choses surnaturelles que nous vivons naturellement. Voilà, s'il était en nous, est une arme puissante parce que le Saint-Esprit nous accorde des révélations, des paroles prophétiques, la puissance, les puissances des ténèbres tremblent devant le Saint-Esprit. Voilà. Et ensuite, la foi, ça fait partie aussi de l'arme, cette arme spirituelle, parce que la foi, par la foi, nous pouvons changer des situations. La foi est nourrie par la parole de Dieu, la foi est nourrie par la prière et aussi par l'action du Saint-Esprit. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Quand on parle de ce qui se passe, quelquefois on voit, il y a des choses, des miracles, etc. C'est Dieu lui-même en action. Ça, c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même, pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même en action. Ça, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous voyez, notre foi est nourrie par, je répète, la prière, la parole de Dieu, la prière, le Saint-Esprit. Et puis, quand on a ces armes, nous avons nos victoires personnelles et nous pouvons apporter aussi une aide. Comme moi, j'étais aidé par ces équipes à l'hôpital. Hein. Vous voyez ce que... Voilà, je vous ai parlé de ça. Donc, la même aide, nous pouvons apporter les uns aux autres. J'avais besoin de votre aide et vous étiez là. Je suis là si vous avez un besoin. Je suis là pour Roger qui veut me rencontrer. J'étais là pour les Américains qui voulaient me rencontrer, parler, comprendre un peu mieux. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, c'est ça. Et puis Dieu veut que nous soyons efficace, pas si entre les deux chaises, mais des chrétiens déterminés, là, remplis de joie, remplis de la certitude. La vie passe tellement vite et il viendra un moment où on va voir la présence de Dieu, Jésus lui-même. On lui dira, Jésus, merci. Salut. Tu m'as sauvé. Je vais voir ma mère et je vais lui dire, maman, merci pour tes prières, t'as pleuré, t'as crié à Dieu. Tu étais patiente. Je n'étais pas gentil avec toi. J'ai fait quelques bêtises. Tu as pleuré. Tu as prié. Tu as dit, Jésus, protège mes enfants. Elle n'est plus là aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça. On est bien d'accord parce que là aussi, il y a des doctrines. Je vous parle symboliquement. Vous allez voir quelqu'un dans l'éternité qui viendra vous voir, qui te dira merci. Ah bon? Mais je ne te connais pas. Mais oui, tu te souviens là-bas, tu m'as donné une invitation. Tu m'as invité à une réunion. Je suis venu à cette réunion. J'ai donné ma vie à Jésus et maintenant, nous serons pour l'éternité ensemble. C'est fort, non? C'est aussi symbolique. Ça dépasse ce que je vous dis. C'est encore mieux que ça. Mais déjà, j'imagine, je crois combien de gens, quelquefois, quand je suis dans d'autres églises, il n'y a pas longtemps, il y a un jeune homme qui est venu me voir. Enfin, jeune homme, il était jeune homme. Il a donné sa vie à Jésus. Je l'ai conduit à Jésus dans une réunion. Et puis, quelques années se sont écoulées. Et il vient voir et il m'a dit, « Bonjour Antoine. Ah bon, on se connaît. Je ne te connais pas. Oui, ça fait déjà des années, on était plus jeunes, mais j'ai donné ma vie à Jésus avec toi. » Alors j'étais heureux, j'étais content. Ça bouillonnait dans mes entrailles. Je me suis dit, même si c'est que lui dans ma vie, j'ai déjà tout gagné parce qu'une personne n'a pas le prix. Mais il y en a d'autres. Personnellement, dans une équipe ou toute l'Église, nous allons nous présenter un jour devant le Seigneur avec toutes sortes de belles choses. Et on sera heureux parce que nous vivrons pour l'éternité. Mais notre message, finalement, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Tout est vanité, la parole de Dieu dit. Mais regardez, mais moi j'étais jeune, jeune comme vous, Antonia, tu crois que j'étais jeune comme toi? T'es sûr? Allez. J'avais même les cheveux. Mais c'est vrai, j'étais jeune comme toi. Et j'étais même plus jeune que toi aussi. Hein? Et toi, tu étais jeune, ça fait t'as déjà une bonne vingtaine. Hein? Regardez comment la vie passe vite. Et pour toi, pour tout le monde, les années passent la vite et nous sommes tous sur le chemin de l'éternité. Voilà la conclusion. Servir Dieu avec l'efficacité. On va se lever ensemble. On va se lever ensemble. Essayez de revoir certaines paroles. Pensez aux armes que vous avez besoin. Pensez aux forteresses qui sont autour de toi, les obstacles. Pensez que Dieu vous aime. Et recevons une bénédiction maintenant. C'est le moment maintenant. Dans la paix. Dépose un problème, difficulté, un combat, peut-être un raisonnement. Peut-être tes pensées sont encore captives dans un domaine ou dans un autre. Accepte que Jésus t'aime tel que tu es. Amen. Accepte, reçois une bénédiction. On va lever la main. Les mains vers le ciel, et puis ensemble, collectivement, on va juste apporter action de grâce. Action de grâce pour le salut de Dieu, pour son amour. Merci Jésus. Ensemble, disons merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as libéré. Merci Seigneur parce que je suis ton enfant. Merci parce que tu m'équipes pour que je sois efficace dans les témoignages, dans les services que tu m'as confiés, Seigneur. Oh, merci Jésus. Gloire à toi, Éternel. Combien tu es grand, combien tu es bon. Alors, comme chaque fois, quand on est ensemble, Dieu nous donne la possibilité d'accepter Jésus dans notre vie. Si quelqu'un parmi nous, ce matin, ce midi, n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tu es là, tu te poses des questions et tu te dis, je ne peux pas rester sans être assuré pour l'éternité, même si je ne comprends pas tout. Y a-t-il quelqu'un peut-être parmi nous? Je fais ça tout le temps parce que je ne sais pas ce qui va nous arriver après. Hein. On est bien d'accord, hein, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc c'est pour ça. Si jamais il y a une personne qui veut prendre une détermination, une décision, tu lèves la main et puis tu dis, Antoine, prie pour moi. Moi, je vais donner ma vie à Jésus ou je vais découvrir, ou je vais essayer de découvrir, peu importe, mais je vais faire un pas, parce que je ne peux pas rester comme ça sans Dieu. C'est trop risqué, c'est trop risqué. Donc, pour que tu puisses évacuer les risques, ah ben, tu dis, je lève la main, et puis on va prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui veut donner, voilà, qui veut lever la main pour dire, c'est moi, c'est le moment. Ça peut être trop tard. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Voilà, y a-t-il quelqu'un? Personne. Seigneur, je t'ai béni, Seigneur, pour ta puissance, pour ta joie que tu nous donnes et pour la certitude. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui se sont approchées, Seigneur. Et je te prie pour Luc, Seigneur, dimanche dernier, Luc était là, il s'est avancé. Et il a dit, je me réengage pour toi. Et je te prie, Seigneur, pour que Luc tienne son réengagement. Amen. Alléluia. Seigneur, je te prie pour Véronique. Tu la consolides dans la foi et fais en sorte que son compagnon soit là le plus vite possible. Véronique, est-ce que tu crois? Voilà. Seigneur, nous les réclamons le plus vite possible ici. Si ce n'est pas dans une semaine, c'est dans un mois, dans cinq mois. Dans cinq semaines, nous les réclamons, hein, Véronique? Nous les réclamons. Au nom de Jésus. On les réclame au nom de Jésus. Et tous nos amis, toutes les personnes qui sont passées par cette salle, nous les réclamons. Pensez à quel cas? Pensez à quel cas? La puissance de la prière. Pensez à quel cas? Voilà. Et puis, priez pour lui cette semaine pour que dimanche prochain soit avec vous. Au nom de Jésus. Il y a trop de risques autour de nous. Et nous aimons tout le monde. D'accord? Merci Jésus. Amen, amen. On va terminer par un chant.